mon étrange pays, Gilles Lapouge, bonjour. Aujourd'hui, nous allons justifier, si la chose était nécessaire, de ce titre, En étrange pays, parce que le pays qui nous attend est le pays le plus familier pour nous, Français, puisqu'il s'agit de la France. Et en même temps, c'est un pays totalement étrange, car avec Jean-Louis Beaucarnot, qui est avec nous aujourd'hui, nous allons pénétrer dans les profondeurs, dans les obscurités de notre histoire, de notre passé. Son livre, d'ailleurs, dit exactement de quoi il s'agit, « Qui étaient nos ancêtres ?» et un sous-titre de leur histoire à la nôtre, et l'éditeur est Jean-Claude Lattès. Donc oui, ce que nous allons découvrir, c'est un paysage tout à fait étonnant, c'est des gens aussi étonnants, nous allons savoir si ils étaient laids, nos ancêtres, s'ils étaient jolis, leurs jambes, comment étaient-elles, un peu tordues, pas tordues, grêles, musclées, poilues, etc., etc. C'est un long voyage, et un long voyage très très étrange. Dès le début, du reste, et on va voir avec les quelques phrases que je vais citer, ou plutôt les quelques notions que je vais rapporter, on va voir que Jean-Louis Beaucarnot, s'il fait une œuvre d'une certaine manière d'historien, en réalité, c'est une histoire un petit peu singulière et sans doute qui suit des voies un peu différentes de l'histoire traditionnelle, même si souvent tout cela se recoupe. Tout de suite, nous voilà plongés dans le bain. Combien avons-nous d'ancêtres demande Jean-Louis Beaucarnot. Et moi, je répondrai beaucoup. Et lui, il a fait des calculs, ou enfin, quelqu'un a fait des calculs. Il dit, mais c'est des millions, c'est des milliards. Et si je ne me trompe pas, si nous cherchions tous nos ancêtres au temps de Charlemagne, théoriquement, on pourrait en avoir quelque chose comme 16 000 milliards, ce qui est tout à fait stupéfiant. Mais vous nous donnerez un petit peu des explications. Et puis, tout aussi stupéfiant et en apparence contradictoire, parce que quand on dit 16 000 milliards, on imagine une mer, un océan d'individus, qui deviennent presque tous anonymes et qui n'ont plus aucun rapport les uns avec les autres. Et en même temps, une autre loi montre que 9 Français sur 10 descendent en vérité de Charlemagne. Alors, avant que vous nous expliquiez un petit peu ce que cela signifie, je précise, mais tout le monde l'aura compris tout de suite, que votre manière particulière de plonger dans le passé, c'est la généalogie.
Oui, j'explique. Bonjour Gilles Lapouge. J'explique que davantage, c'est 16 000 milliards. Et c'est 9 Français sur 10 qui descendent de Charlemagne.
Voilà.
Ils ne descendent pas en réalité.
Vous n'expliquez pas tout, parce qu'il y a quand même de l'incompréhensible là-dedans.
Mais, oui, surtout que la Terre ne portait pas à l'époque de Charlemagne autant d'habitants.
Voilà, donc là.
Mais il y a aussi le fait que si 9 Français sur 10, on peut dire, descendent de Charlemagne, arithmétiquement parlant, démographiquement parlant, on peut aller jusqu'à dire finalement que 9 Français sur 10 descendent de tous les couples féconds contemporains de Charlemagne. Parce que la réalité, elle est là, si vous voulez, nos ancêtres, on en a tellement, tellement, tellement en remontant, que finalement, on arrive à des... Alors, on n'aurait peut-être pas 16 000 milliards d'ancêtres, mais on en a quoi ? 2 à 3 millions, qui sont les 2 à 3 millions représentés par les contemporains de Charlemagne qui ont eu des enfants. Parce que finalement, à ce niveau-là, on descend pratiquement... de tous ceux qui ont peuplé la France et peut-être même aussi les pays voisins. Et puis de temps en temps,
ce qui explique qu'on peut dire que Ramsès faisait partie d'une certaine manière d'une branche d'un rameau.
Alors, à partir de Charlemagne, on a le même phénomène, c'est-à-dire que Charlemagne a 16 000 milliards d'ancêtres à l'époque, de Jésus-Christ ou à l'époque de Jules César qui avait lui-même 16 000 milliards d'ancêtres à l'époque de Ramsès II. Donc, on arrive, si vous voulez, si, de temps en temps, on arrive en généalogie à montrer, noir sur blanc, qu'on descend de Charlemagne. S'il n'y a pas eu un mari trompé entre les deux, entre nous et Charlemagne. Mais on arrive de la même façon.
Il y a des chances qu'il y en ait eu quand même.
Il y a des chances.
Depuis Charlemagne.
Oui, oui. Et bon, après, c'est une question de droit. Et en droit, on va tenir compte que des filiations dites légitimes. Mais à partir du moment où on est arrivé à Charlemagne ou à quelqu'un d'approchant socialement parlant de ces époques-là, souvent c'est un toboggan généalogique, en ce sens que sa généalogie est faite, est connue, et nous rattachera, nous renverra sur d'autres familles. Il y a un conte de Provence comme ça, dont on descend, qui est un petit peu, qui se doit situer entre Charlemagne et Saint-Louis, très facilement, on va se trouver qu'on descend de lui aussi. Eh bien, ce comte de Provence avait une mère ou une grand-mère qui était la princesse Anne de Macédoine, une princesse de Byzance, et par là, on trouve les rois d'Arménie, les satrapes de je ne sais où, etc. Et c'est comme ça qu'on va se rebrancher et arriver à trouver qu'à la 167e génération ou autre, on va avoir Ramsès II.
Avec un autre effet étrange aussi, Jean-Louis Beauvernon, vous en parlez, c'est que même une famille dite très aristocratique, dite très noble, très distinguée, elle a certainement des parents qui, au contraire, font partie de la roture.
Ah, forcément.
Je crois que c'est Louis XV qui disait,
Louis XV, clouer le bec un petit peu aux prétentieux de sa cour, de temps en temps, disait, mais enfin, je vous rappelle, messieurs les courtisans, que je descends d'un petit notaire de Bourg, je sais plus, au XVIe siècle. Parce qu'à cette époque-là, ces choses-là comptaient énormément. Faut se remettre dans l'esprit de l'époque. Les familles qui avaient accédé à la noblesse, après avoir été longtemps, pendant des générations, snobées par celles qui avaient accédé avant elles, n'avaient qu'une idée, c'était de faire oublier leurs origines modestes. Un notaire qui était pourtant quelqu'un de lettré, quelqu'un, un acteur de l'économie, de l'époque, de la société, très influent et très important. Et bien, un notaire était considéré comme quelqu'un d'abject. D'ailleurs, le notaire, quiconque passait par le notariat, dérogeait s'il avait été anobli avant. Il n'y avait que les notaires au Châtelet de Paris qui ne provoquaient pas la dérogeance.
Mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de snobisme à l'envers? Certaines personnes très distinguées qui sont très fières de dire « Oui, j'ai évidemment des rois ou des princes dans mon arbre généalogique, mais il y a aussi un pendu, il y a aussi un bagnard, il y a aussi un guillotiné. »
Certainement, certainement. Toute charcutière met un poids d'honneur à être très distinguée, et toute marquise être très simple. Hein. Certainement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions. La généalogie, pendant longtemps, est restée un petit peu confinée, restée le fait des descendants des familles nobles et notables, parce que c'était eux qui avaient le temps matériellement, au niveau des loisirs, et la possibilité intellectuelle de se poser certaines questions et de chercher des réponses. Depuis 20 ans, 25 ans, ça a beaucoup changé, et on voit petit à petit des évolutions à tout niveau. Il y a 20, 25 ans, je n'entendais jamais parler de bagnard dans les ancêtres. Aujourd'hui, j'en entends de plus en plus souvent parler. Alors, il est vrai que il y a une nouvelle génération qui arrive à faire de la généalogie, qui peut être jeune, avoir encore plus d'ancêtres que la précédente, parce que, bien souvent, les ancêtres, on ne va pas trop au-delà de 1650, donc elle en a le double à chercher. Et bien souvent, à l'intérieur de ces ancêtres, on risque de tomber sur des gens plus divers, plus variés, et on va pouvoir trouver le bagnard. Mais je pense que le bagnard, il y en a toujours eu dans les généalogies, et autrefois, on le cachait davantage parce qu'on était beaucoup plus sensible à ce que ça représentait.
Jean-Louis Beaucarnot, pour l'instant, nous allons parler surtout généalogie, et tout votre livre est un livre de généalogiste. Vous êtes connu comme généalogiste, mais en même temps, et moi c'est une des choses qui m'intrigue et qui me passionne dans ce livre, c'est que vous montrez que tout de même que par la voie de la généalogie, vous arrivez à reconstituer des périodes passées de la France, comme au fond, mais pas tout à fait de la même manière, comme les historiens classiques vont le faire.
Le généalogiste, lorsqu'il pousse un petit peu loin ses recherches, va être amené non plus à collectionner des noms, des dates et des lieux, ce qui est aride, austère, ça donne un squelette, ça donne pas de vie. Il va vouloir mettre de la vie dessus, habiller ses ancêtres, et va faire du travail à la Alain Corbin. Alain Corbin qui récupère complètement au hasard un anonyme parmi les anonymes qui est Louis-François Pinagot dans la forêt de la Sarthe,
oui.
Et qui se lance ce défi d'arriver à reconstituer sa vie, la vie de quelqu'un qui n'a rien laissé, qui n'a laissé aucune trace, sinon un acte de naissance, un acte de mariage et un acte de décès. Louis-François Pinagot d'Alain Corbin est parfaitement représentatif de la plupart de nos ancêtres, petit et sans grade. Et ce qu'a fait Corbin sur Louis-François Pinagot, on peut le faire sur chacun de nos ancêtres. Chacun de nos ancêtres peut être exploré pendant des mois et des années en recherchant les plus menues traces de son passage chez les notaires, dans les archives fiscales, etc. Mais en faisant ça sur plusieurs ancêtres, si vous voulez, ou pour faire ça même sur un seul, on est appelé à quand même découvrir toutes ces sources et avoir une vue d'ensemble qui nous donne une image très vivante, très saisissante de la société d'autrefois. On fait de l'Alain Corbin en travaillant sur les matériaux de nos propres ancêtres.
Oui, mais que ce soit Alain Corbin dont le livre est magnifique, et pas seulement ce livre-là, hein, parce que tous les livres de Corbin sont magnifiques. Il y a ce livre sur les odeurs, ce livre
sur les cloches.
sur les cloches qui est magnifique, il y a le livre sur les prostituées qui
anime une
province, oui. Oui, le premier, tout ça est magnifique. Oui, mais je veux dire, ce que fait Alain Corbin, ce que vous, vous faites avec vos méthodes qui sont pas exactement les mêmes, les deux sont complètement, comment dirais-je, dans la lumière de ce qu'on appelle la nouvelle histoire.
Absolument.
C'est-à-dire ça vient des annales d'une certaine manière, hein, qui a cessé pendant un temps, parce que maintenant ils y reviennent un peu, de s'occuper uniquement des batailles et des trônes, et qui s'est dit, mais qu'est-ce que c'était que ces gens-là, et exactement, qui essaient de répondre aussi à leur manière, à votre titre, qui étaient nos ancêtres.
Mais les généalogistes, qui, eux, s'y intéressent pour des raisons plus directement personnelles, deviennent de plus en plus, s'affirment de plus en plus comme des collaborateurs ou des relais efficaces pour l'historien. L'histoire des familles est en train de se créer un petit peu, de s'affirmer à bien des niveaux.
C'est ça. Alors, parmi les révélations aussi que la généalogie ou que la démographie nous apportait, ce sont vos premiers chapitres. Je ne sais pas si c'est le premier, le deuxième, enfin, c'est vos ouvertures. Il y a le fait que, il y a peu de Parisiens de vieille souche, hein.
Oh, on ne connaît pas. On ne connaît pas parce que la population parisienne a été évidemment constituée d'apports successifs. Et au fil des temps, ces apports ont fait appel à des populations, à des régions plus éloignées. Si on remonte les ancêtres d'un Parisien d'aujourd'hui, un enfant né en région parisienne aujourd'hui, d'abord, il va bien souvent avoir pour quatre grands-parents nés parfois dans des pays différents. On vient de très loin. Mais on prend un Parisien né en 1900 ou en 1880, bien souvent, sur ces trois grands-parents, il n'y en aura qu'un qui sera né à Paris. Et sur les quatre grands-parents de ce grand-père-là, il y en aura un nouveau qu'un qui sera né à Paris. Et puis, petit à petit, on trouve des gens venus dans les premières générations, c'est-à-dire en remontant le temps, on va trouver des gens venus de Languedoc, d'Auvergne, etc., de Franche-Comté. Et puis, petit à petit, on va ne plus voir que les régions voisines. On va venir de Normandie, on va venir de Picardie, éventuellement du nord de la France, de la Thiérache, de l'Orléanais, etc. Et puis après, on viendra plus souvent de Meaux que de Rouen et encore plus de Bordeaux.
Oui, et dans l'ensemble, les non-parisiens, les lieux non-parisiens ont une stabilité démographique beaucoup plus grande que Paris.
Mais Paris ne fait qu'être une étape dans l'histoire des familles en général. Il y a éventuellement une branche qui vient à Paris, quelques branches qui viennent à Paris, mais la majeure partie de la famille, des porteurs du nom, de ceux qui ont hérité du nom qui est né vers le XIIe, XIIIe siècle, et qui s'est fixé à ce moment-là, du moins, eh bien, l'immense majorité de ces porteurs sont restés dans les provinces d'origine, et ils restent encore. La plupart du temps, dans la plupart des régions, largement 30% des porteurs du nom sont encore concentrés sur le département d'origine.
Bien, nous allons parler du nom, parce que vous parlez de la naissance du nom de famille, au fond c'est passionnant. Auparavant, nous allons écouter une petite chanson, parce que vous faites allusion aux chansons, dans la mesure où effectivement, les chansons, du moins les chansons très traditionnelles, font partie aussi du matériau qui nous permet de comprendre un peu qui étaient nos ancêtres.
Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu.
Jean-Louis Bocarno, parmi les signes que vous, généalogistes, interprétez, étudiez pour un petit peu retrouver ce que furent nos ancêtres, il y a les noms, vous venez d'en parler beaucoup, des noms, et vous en parlez tout au long du livre. C'est vrai que c'est un fil extraordinaire, d'autant que les noms, ils ont souvent une signification, en tout cas, ils se rattachent à une activité, à un terroir.
Ils ont toujours eu une signification.
Toujours eu, oui. Oui, mais on l'a oublié, je veux dire, aujourd'hui. Souvent.
On l'a oublié parce que ce sont des surnoms. Il faut bien voir que...
Ça, on ne comprend jamais comment les noms de famille se sont installés vers le XIIe siècle, c'est ça, hein?
Oui, mais pour quoi que ce soit, il faut bien se remettre dans l'esprit de l'époque et toujours se dire que lorsque le généalogiste veut travailler et chercher des renseignements sur ses ancêtres, il va devoir trouver des archives qui n'ont pas été conçues pour l'aider, lui, 8 siècles après ou 3 siècles après. Ce sont des administrations de ces époques-là qui éprouvaient le besoin de rédiger de la paperasserie administrative pour bien mener à bien leur mission, et le généalogiste, lui, doit connaître un peu l'histoire de ces administrations, l'histoire du droit, etc., pour savoir quelles sont les archives qu'elles ont produites, et donc savoir quel est le bon document dans lequel ils vont pouvoir aller chercher telle ou telle réponse. En matière d'origine de nom de famille, il n'y a jamais eu de loi disant « à partir d'aujourd'hui, on va créer des noms ». Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer naïvement, si on ne connaît pas bien la question, on n'a jamais ouvert un registre, que ce soit au plan national, la nation, l'État, était au XIIe siècle quelque chose de très très flou, mais on n'a jamais nulle part ouvert un registre en disant « bon, bah maintenant, les gens vont prendre des noms, et puis vont venir les inscrire, vont dire pourquoi ils ont pris tel nom plutôt que tel autre ». Non. Tout ça, ça s'est passé spontanément, sans aucune directive quelconque, dans, à la suite de l'an 1000, du XIe siècle, une grande période de croissance, de paix générale, il y a eu un grand boom démographique, et au sein de chaque village, jusqu'à cette époque-là, les noms de baptême, nos prénoms, suffisaient à dénommer les gens.
Donc il y avait tout de même des registres paroissiaux déjà.
Ah non, il n'y avait rien.
Même pas.
Rien du tout. Donc on parlait de Guillaume, de Hugues, etc.
C'est ça.
Et puis, à partir de cette augmentation démographique énorme, eh bien, on s'est retrouvé dans chaque village, dans chaque seigneurie, dans chaque entité territoriale, avec plusieurs Guillaume, plusieurs Hugues, plusieurs Jean, plusieurs Pierre, etc. Et il a fallu les distinguer, et on a commencé à parler de Pierre le Roux parce qu'il était roux, de Pierre le Grand parce qu'il était grand, de Pierre Vaillant parce qu'il était vaillant, de Pierre le Beau parce qu'il était beau, ou parce qu'au contraire il était tellement laid que par des raisons on l'appelait le Beau.
C'est un surnom.
C'est un surnom, et ces surnoms on les fabriquait comme on voulait. C'était, ils n'étaient jamais choisis par les intéressés, les porteurs, c'était le prochain, le voisin qui le leur donnait, qui le leur conférait. Mais c'est exactement dans l'esprit, si vous voulez, des surnoms qu'on se donne encore aujourd'hui dans les cours de récréation, qu'on se donnait dans les chambres des services militaires ou autre. Et allez savoir pourquoi, bien souvent, aujourd'hui, si vous pensez aux surnoms que vous aviez donnés, que portaient vos copains de l'école primaire 15 ans ou 40 ans après, vous ne vous rappelez même plus. Pourquoi celui-là, tiens, on l'appelait Bocal ou je ne sais quoi. Nos noms de famille, c'était pareil. Et c'est pareil aujourd'hui, c'est-à-dire que, à tout le mieux, bien souvent, on va pouvoir dire, déterminer à partir de quel mot, sur quel mot il était forgé.
Ouais.
Bon, on appelait quelqu'un barbier parce qu'il était le chirurgien ou le barbier. En général, ça allait de pair.
Oui, avec quand même des transformations après.
Avec des transformations possibles, des déformations, etc. Mais pourquoi l'appelait-on barbier ? Sans doute parce qu'il exerçait cette activité-là, mais on pouvait très bien l'appeler barbier aussi, parce que, comme tout chirurgien, mais il était sanguinaire, enfin, on avait fait un rapprochement. On pouvait l'appeler barbier parce qu'il avait joué un rôle de barbier dans un mystère quelconque sur le parvis d'une cathédrale. On pouvait l'appeler barbier pour 1000 raisons. Et il en va ainsi d'un tas de noms de famille. Vous avez des noms de famille nés de sobriquets évidents comme Mangematin ou Persepus. Pourquoi ? Personne, aujourd'hui, n'était là à cette époque-là, il y a 8 siècles. On ne peut que arriver à trouver à partir de quels mots ils sont forgés, et puis c'est tout. Alors bon, on sait que bien souvent, ils viennent tout simplement du métier, que bien souvent, ils viennent du lieu habité, surtout dans les pays d'habitat dispersés. En gros, dans l'est de la France, je dirais, au nord-est, en Alsace, en Lorraine, etc., on a beaucoup, beaucoup de noms formés sur les prénoms. Collignon, c'est Colin, c'est Nicolas. Et puis, au fur et à mesure qu'on se déplace et qu'on rejoint le sud-ouest, on trouve de plus en plus d'habitats dispersés et de ce fait de plus en plus de noms venus des noms de lieux. on ne connaissait pas suffisamment Jacques, Pierre ou Paul pour lui donner un petit surnom personnalisé. Et donc, on disait, c'est Jacques de tel endroit, c'est Jacques de Madelmonde parce qu'il habitait Madelmonde, c'est
oui,
Jacques
donc, de Nuvière parce qu'il habitait Nuvière. Si ce que vous dites est tout à fait exact, évidemment, que ces noms, on ne sait plus pourquoi, si ça voulait dire que Barbier était un chirurgien ou était un coiffeur, etc. Ça, d'accord. Mais si on regarde les séries, à ce moment-là, ça donne quand même, il me semble, des idées sur, par exemple, vous dites qu'il y a parmi les noms des témoins des grands défrichements. Hein, des grands défrichements de forêt. Et effectivement, vous parlez de brol, qui veut dire petit bois.
Le taillis, oui.
Ça n'est pas, d'ailleurs, je croyais que c'était un nom italien, brol, qui vous
Ah non, brol qui vient du broyi italien, oui. N'a rien broil. À voir. Oui. Quoique, après tout, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des noms italiens, des étymologies italiennes, de l'histoire de l'italien, c'est peut-être la même racine. Mais bon, les noms témoignent de leur temps.
C'était marécage, cassaro qui veut dire le chêne.
Mais les noms témoignent de leur temps
à l'époque. C'est ça.
Lorsque, faut comparer un petit peu ça avec l'archéologue. L'archéologue qui creuse un terrain, trouve un objet, pour identifier cet objet, souvent, des tas de choses, allez, fibule, objet de culte, ou je ne sais quoi, il hésite, et il se dit, voilà, à quelle couche appartient ce terrain? Comment puis-je dater la couche dans laquelle cet objet a eu cours? Et à partir de là, il va l'identifier. Eh bien, le généalogiste va travailler pareil. Le généalogiste, il sait que tous les noms sont nés à peu près à la même époque, en dehors des quelques noms qui ont été donnés au fil des temps aux enfants abandonnés, selon les techniques les plus diverses, mais que tous les autres sont nés à 99% d'entre eux ou 99,9% d'entre eux vers les 11e, 12e siècles. Donc on est à cette époque-là, mais après ça va dépendre des régions et des milieux. Et à chaque fois, le nom va être témoin de son temps. L'époque où les noms naissent, où le boom démographique dont je parlais tout à l'heure a eu lieu, a fait que... Ce boom démographique a fait que il a fallu conquérir de nouvelles terres sur la forêt pour nourrir tout le monde. Donc il y a eu de grands défrichements et beaucoup de familles se sont associées étroitement à un lieu qui était le lieu qu'elles avaient défriché et qu'elles vont peupler. Donc bien souvent, les noms de lieux qu'elles ont entre guillemets récupérés à cette époque-là, qu'on leur a donné comme surnom, eh bien témoignent des activités de cette époque.
Oui, mais aussi, tant que ça n'est pas fixé, je ne sais pas si c'est passé tout de suite à dans l'état civil.
Mais l'état civil n'existait pas. Mais l'état paroissial n'existe pas non plus. Oui.
Bon, donc on peut très bien imaginer que le nom de famille, qui aujourd'hui est transmis de père en fils, pouvait se renouveler.
Ah ben, le nom de famille se renouvelle. Si monsieur, je ne sais pas, allez, monsieur Cocu ou monsieur Le Rouge, monsieur
Le Rouge, parce que la femme... un exemple non, triste, écoutez, mais... le pauvre.
Allez, monsieur Le Rouge, monsieur Le Rouge, ou monsieur Boivin, parce qu'il avait de mauvaises habitudes, ou parce que son père avait de mauvaises habitudes, quitte sa région d'origine, qui est la Normandie, pour aller en Languedoc ou en Île-de-France. Comment va-t-on l'appeler? On ne sait pas que dans son bourg, on l'appelait Boivin. On ne connaît pas tout ça. On va tout simplement l'appeler Normand. Et on voit à travers les actes que bien souvent, une personne se présente sous plusieurs noms au fil de sa vie à une certaine époque. De toute façon, le nom est moins important pendant très longtemps que le nom de baptême. Dans la farce de Maître Patelin, lorsque Patelin donne à sa femme le nom du drapier qu'il a berné, il dit, je crois, il s'agit d'un certain Guillaume qui a pour nom de famille Josaume.
C'est ça.
Le nom de famille est un accessoire. C'est le prénom qui arrive en position frontale, je veux dire. C'est le prénom, le nom de baptême, qui est le plus important, parce que là aussi, nos ancêtres étaient des gens pétris de religion, et que le nom de baptême est le nom sous lequel on est présent auprès de Dieu, aux yeux de Dieu. Le surnom qu'on a reçu au village, et dont on a hérité du père,
sacré, oui.
Est complètement accessoire. Oui. Et pendant très longtemps, ce surnom, ce patronyme, ce nom de famille, il est un peu à roulette, il suit. Mais de temps en temps, il va être déformé, reformé, etc. Il est très facile de changer de nom à cette époque-là.
Jean-Luc Garnot, là, nous avons parlé un petit peu de cette méthode historique particulière que nous propose la généalogie. Après, on va un petit peu élargir le spectre et voir en effet comment nos ancêtres vivaient. Mais auparavant, je voudrais poser une question sur la généalogie. Qu'est-ce que c'est qu'un généalogiste? On sait que un vétérinaire fait 10 ans d'études, on sait que un médecin en fait 8, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un généalogiste?
D'abord, vous avez deux types de généalogistes. Vous avez le généalogiste amateur.
Oui.
Qui peut-être. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde, voilà. Qui est quelqu'un qui a des ancêtres et qui a envie de les retrouver et de les connaître. Et qui part faire une recherche. Et puis, vous avez quelques généalogistes professionnels qui, en général, sont passés par la phase de l'amateur, à un âge quelconque, à une époque quelconque de leur vie, et s'ils sont passés jeunes, eh bien, décident d'orienter leur formation de ce côté-là, c'est-à-dire ils font de l'histoire, ils font du droit, etc. Et il n'y a pas de formation requise.
De la linguistique, donc.
De la linguistique, et éventuellement, sémantique, etc. Mais il n'y a pas de formation requise. Après, il peut décider de devenir généalogiste pour faire les recherches des personnes qui n'auraient pas le temps. Il se déclare aux URSSAF, il est en règle avec la société, et il propose ses services contre rémunération. Nous avons des chambres syndicales actuellement qui essaient de faire réglementer un petit peu, reconnaître la profession. C'est une profession jeune, c'est une profession qui a encore à faire ses preuves. Et
oui, jeune, mais quand même qui doit être d'une belle santé, parce que j'ai l'impression que il y a en France, spécialement depuis quoi, 20 ans, 30 ans, peut-être une passion généalogique extraordinaire.
Oui, mais justement, comme peut-être. Il y a beaucoup de passionnés et d'amateurs, oui. Il y a peut-être moins de place pour les professionnels.
Oui. Mais alors, il y a une société quand même, à défaut de label officiel, il y a des sociétés de
généalogie. Ah oui, il y a deux chambres syndicales. De généalogistes qui font en sorte que leurs membres soient des gens qui ont fait leurs preuves, qui sachent travailler, qui respectent une déontologie, un code de déontologie dégagé en commun en général, qui s'engagent aussi à respecter certains types de contrats qui sont garantis, donc qui donnent des garanties, qui sont là pour donner des garanties aux éventuels clients.
Donc il y a des rassemblements, des congrès, des...
Ah oui, absolument, il y a des réunions intrasyndicales ou autres, et il y a même maintenant un travail qui est mené avec les généalogistes successoraux qui n'ont qui peut de commun avec nous que la dénomination de généalogistes, qui sont des gens qui travaillent souvent en liaison avec les notaires pour retrouver les héritiers des successions et des errances, mais qui ont tout de même quelque chose de commun avec nous dans l'appellation et qui, de ce fait, se rapprochent beaucoup de nous pour essayer de travailler aussi à faire réglementer justement nos deux professions.
Ouais. Et les pouvoirs officiels, parfois, portent intérêt à la généalogie ou pas ?
À la généalogie professionnelle, non, ils n'ont pas manifesté beaucoup d'intérêt, mais par contre, alors là, c'est très nouveau, et c'est très important, parce que c'est quand même quelque part un début de reconnaissance officielle. Très récemment, Christian Jacob, le ministre de la Famille, a contacté les principaux acteurs du monde de la généalogie pour affirmer son... tout l'écho que ce grand mouvement de retour aux sources, de recherche d'identité et de racines recevait auprès de lui-même et de son ministère, et pour affirmer aussi sa volonté de soutenir, d'aider, d'élargir, permettre à tous ces énergies de mieux transformer leur essai et d'être peut-être mieux canalisés et mieux relayés. Et ça, je crois que c'est très très important. Il va venir inaugurer la troisième biennale de généalogie d'histoire des familles qui commence aujourd'hui même. Il va
aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui.
Je ne suis pas moi.
Et moi non plus, mais j'y cours tout de suite là. Aujourd'hui, demain et après-demain, 13, 14 et 15 décembre, c'est à l'espace Champéret, c'est la grande messe des généalogistes, le grand rassemblement des passionnés, où on parle d'ancêtres, de racines, de cousins, pendant 3 jours, avec des conférences, des animations, des ateliers aussi de sensibilisation, de découverte de la généalogie, d'initiation, des visites guidées des archives nationales, des archives de Paris, du Père Lachaise, etc. Enfin bon, tout ce qui permet de se documenter sur nos ancêtres, mais donc il y a de plus en plus, depuis quelques mois, une prise de considération à laquelle nous sommes très très sensibles de la part des pouvoirs publics. Nous nous sommes rapprochés il y a quelques années de l'université qui a reconnu les recherches à certains niveaux que pouvaient mener les généalogistes. Et bien, je pense que cette reconnaissance de la part des pouvoirs publics, cette reconnaissance implicite est très importante.
Et il pleut bergère. J'entends sur le feuillage
voici venir l'orage, voici l'éclair qui lui. Courons, courons, bergère, vois-tu briller là-bas le toit de ma chaumière? Il nous abritera, voici notre cabane. La porte va s'ouvrir, ma mère et ma sœur Anne viendront nous accueillir. Bonsoir, bonsoir ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'emmène ma bergère près de vous pour ce soir. T'emmène dans l'étable ses brebis, ses agneaux.
Oui, c'est une grande chanson française de la Révolution. C'est Fabre d'Églantine qui en a écrit les paroles, mais je crois que là, les paroles ont été réinterprétées par Céline Ferrer.
Je crois aussi.
Il y a un petit, comme vos noms, ça bouge aussi quand même. Bien, alors on ne va pas entrer dans la totalité de ce livre, hein, parce qu'il est très très riche, il y a beaucoup de choses. Il y a, en particulier, vous, par vos méthodes, par cette manière de... Comment dirais-je, de scruter avec d'autres lunettes les objets, c'est-à-dire les villages, les villes, etc. Vous faites une espèce de typologie de la France, de la société française à l'époque, avec les dominants et les dominés, avec les nobles et les roturiers, avec les paysans et les gens de la ville. Tout ça est très différent. Et en particulier, alors, il y a des moments passionnants, je trouve, sur les gens qui ont de l'importance. Par exemple, ça va être celui peut-être qui est le plus important, en tout cas, un de ceux qui m'ont le plus intéressé, en tout cas, c'est le notaire. C'est fabuleux, le notaire.
Le tabellion, le notaire.
Le tabellion, oui. Notaire, hein? Oui.
Mais pourquoi cette approche? Parce que la plupart du temps, lorsque nous cherchons nos ancêtres, nous trouvons des Jacques Meunier, des Pierre Dupont, des François Machin, etc., qui étaient tous, plus ou moins, faisaient partie du monde paysan. Ça semble très linéaire. Et la question qu'on se pose très vite, c'est mais qui étaient-ils? Comment se positionnaient-ils dans leur société? Donc, nous leur disons, il y a des documents d'archives qui vous permettent de les positionner à l'intérieur de leur milieu, mais il faut toujours les replacer dans leur contexte. Et c'est là que l'on voit très nettement évoluer certaines personnes qui... et je crois qu'effectivement, l'exemple du notaire est bien choisi. En plus, il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et le notaire est un personnage encore plus important pour le généalogiste, puisqu'il est à l'origine de bon nombre des archives qu'il va fréquenter. Ce notaire n'est pas du tout le notaire tel qu'on l'imagine aujourd'hui, ou même tel qu'on l'a pu le connaître il y a 40 ou 50 ans, avant l'ère de l'informatique. Le notaire, d'abord, est, comme la plupart des personnages importants, un personnage itinérant.
Oui.
Qui va à la rencontre de ses pratiques, de ses clients. Il instrumente dans un bourg, mais on ne vient pas à lui, on lui fait savoir par un messager quelconque qu'on a un contrat de mariage à régler, un testament à dicter, et il se déplace. Alors il part sur sa mule, sur son bidet, par des chemins défoncés.
Mais il est quand même un personnage important, riche.
Il est un personnage important. Il part avec son kit. Oui. Le kit du notaire, d'écrivain,
l'encre.
Où il y a l'encre, la plume, est très révélateur aussi, parce que tout ça sont des équipements très très chers. Le petit papier qu'utilise le notaire est un papier qui coûte très cher, donc il va falloir l'économiser au maximum, d'où l'écriture minutieuse de la minute. Une écriture menue, une écriture que l'on abrège au maximum avec des abréviations dignes de notre sténographie d'aujourd'hui, avec des apocopes, des notes ironiennes, etc., qui font que la moitié des mots ne sont pas écrits en entier et qu'il faut connaître toutes ces règles-là qui sont très, très simples et en petit nombre, finalement, pour pouvoir aller lire les actes des notaires, voire des curés d'autrefois. Donc, le papier est cher, la plume doit être chère. Pour avoir une bonne plume d'oie, il faut trouver une plume d'un volatile qui a été bien nourri, pas l'aliment complet, pas aux hormones. Il les fabrique eux-mêmes, il faut savoir les tailler soi-même, pour faire des pleins, des déliés, et puis surtout que ça ne fasse pas de pâté, etc. L'encre, ils se la fabriquent eux-mêmes et ils échangent les recettes de bouche de notaire à oreille de notaire ou de bouche de curé à oreille de curé. Tout est comme ça. Et notre notaire part avec son kit sur sa mule et son bidet et va recevoir un contrat de mariage. Pour lequel il sera rémunéré en nature. On lui donnera du froment pour ensemencer sa terre parce qu'il a toujours un peu de bien au soleil. Ou on lui donnera deux chapons de géline ou quelque chose comme ça qu'il va faire engraisser par sa femme dans sa volière. Le notaire est complètement impliqué dans tout. À travers le notaire, on peut comprendre pratiquement toute la société d'autrefois. Quand on voit le notaire arriver donc sur son bidet, il dresse son acte, il reçoit ses émoluments et il met dans son acte déjà beaucoup de formules qui sont très représentatives d'un tas de mentalités. Dans le testament, le défunt commence par invoquer tous les saints du paradis, faire son signe de croix, etc. Nos ancêtres sont pétris de religion et le testament, le but du testament n'est pas d'assurer l'avenir du patrimoine. Même s'il y en a un, il y en a rarement un. Mais il est d'assurer la sauvegarde de l'âme. C'est quand même ça le grand souci de nos ancêtres, du berceau à la tombe.
Et l'acte du notaire est irrévocable, enfin, sa force absolue.
C'est la force absolue comme l'acte du notaire aujourd'hui, il fait foi. Hein. Le notaire qui dresse un inventaire après décès, ça vous semble très austère, mais l'inventaire après décès est le document extraordinaire. Dans bien des cas, le notaire arrive et va, par le menu détail, noter entièrement tout ce qui compose le mobilier et le patrimoine.
C'est très petit souvent, non ?
Pardon ?
C'est très petit ce mobilier, non ?
C'est très petit, mais quand on ouvre un coffre, le coffre en général qui a été offert à la femme ou à la mère en trousseau lors du mariage, qui est le coffre de bois de chêne, quand on est riche, ferré et fermant à clé, ou bien quand on est plus pauvre, c'est la simple caisse sapine. Quand on ouvre ce coffre qui tenait lieu d'armoire chez nos ancêtres jusqu'au 18e, mais aussi souvent de siège, devant la table, eh bien, quand on ouvre ce coffre, quand le notaire ouvre ce coffre, il en donne tout le détail. Et il ne fait cadeau de rien, y compris des bas, des méchantes paires de bas très usagées. Pourquoi ? Parce que tout s'use jusqu'à la corde, parce que tout a une valeur marchande, parce qu'on monte éventuellement dans un grenier ou un entrepôt à la cave, mais jamais rien n'est jeté. C'est la société de la non-consommation. Donc on est avec le notaire au cœur des mentalités et avec cet inventaire après décès, certains sont arrivés à dessiner, à reproduire une maquette en deux ou trois dimensions de la salle commune où vivaient leurs ancêtres avec les jambons qui étaient pendus à l'âtre, etc. Cet acte qui semble très austère et qui est très vivant et très riche nous permet d'ouvrir l'huisse, la porte de nos ancêtres. Et si on ouvrait la porte de Pierrot tout à l'heure, à qui on chantait au clair de la lune, eh bien, on serait très étonné parce qu'on tomberait dans un univers si complètement, complètement différent du nôtre. C'est une autre planète. Nos ancêtres vivaient sur une autre planète et n'étaient pas de la même planète
oui,
que nous.
C'est pourquoi je disais que ce livre entre absolument sous la rubrique de cette émission En étrange pays, parce que c'est une idée qui revient sans arrêt, et à juste titre, c'était un autre monde. C'était
un autre monde, mais qui avait sa logique, autre logique.
Mais cela dit, ça c'est une incidente, et à propos des notaires justement, parce que vous parlez jusqu'en 89, hein, en gros.
Ce sont des personnages de poids qui ont une influence socio-économique très importante. Ils sont au carrefour de tout ce qui se passe. C'est un monde où il y a très peu d'échanges d'argent. Oui. La terre est la valeur de référence. Oui. Hein. Si on veut schématiser l'univers de nos ancêtres, c'est l'Angélus de Milet. Oui. Les paysans croyants, pétris de religion, comme je disais tout à l'heure, qui prient au milieu de leur terre, avec le clocher de l'église qui hache et rythme le temps de travail et le temps général au fond, c'est ça. Et dans ce monde très plat, dans ce monde où il n'y a pas d'échange d'argent, où nos ancêtres n'ont pas d'argent dans leur poche, ils ont quelques pièces de monnaie, quelques pièces de bronze, tout au plus. Eh bien, dans ce monde-là, le notaire est au carrefour de tout ce qui est important. C'est par lui que la terre transite pour passer d'une main à une autre. Et d'ailleurs, dans ce monde qui est un monde où l'écrit est très rare, où la parole a une grande force également, qui est un monde quand même de l'oral, du silence, mais de l'oral, et l'oral n'a que plus de valeur dans un monde du silence, eh bien, le notaire, lorsqu'il rédige un acte, use de formules qui nous semblent redondantes, qui nous semblent très curieuses aujourd'hui, alors qu'elles ont toute leur valeur, quand on replace dans le contexte de l'époque, lorsqu'il fait un acte de vente, rédige un acte de vente, il dit bien que souvent, le propriétaire remet une motte de terre, de la terre vendue, à l'acheteur. Il la place dans sa main.
C'est la roture.
Oui, c'est la roture, la terre rompue. Mais c'est aussi le fait de matérialiser le passage. Il y a toujours des témoins, et ces témoins qui ne peuvent pas lire l'acte où ils vont mettre leur croix, La croix, c'est le signe du serment sur la croix, évidemment. La croix qu'ils mettent quand ils ne savent pas écrire, eh bien, ces témoins ont vu quelque chose. C'est le gestuel qui l'emporte, comme pour l'adoubement autrefois, comme à l'état de niveau. Tout est gestuel, tout est image. Et lorsque le notaire rédige un acte d'émancipation, on voit le fils émancipé mettre ses mains jointes, placer ses mains jointes dans les mains de son père, qui les en retire, et qui comme ça, par un geste très clair et qui ne prête pas à confusion, l'émancipe. Tout se fait comme ça. Le notaire est vraiment au cœur des mentalités et à travers le notaire et la vie du notaire, on comprend tout.
Mais d'une certaine manière, le notaire tel que vous le décrivez, avec flamme, avec passion et avec beaucoup de
Je l'aime
talent,
ce notaire parce qu'il nous rend tellement de service.
Mais il me semble d'une certaine manière plus près du notaire de Balzac que du notaire d'aujourd'hui.
Ah, complètement. Bah, hein? oui.
Comme le médecin que vous décrivez, d'avant, enfin le médecin du 16e, du 17e, ressemble davantage à Charles Bovary, du 19e, donc, de Flaubert, que au médecin d'aujourd'hui.
Oui.
Donc tout ça, c'est quand même prolongé très tard, après la Révolution française.
Bah, tout ça a continué, l'ancienne société, la société traditionnelle, a demeuré jusqu'à l'entre-deux-guerres.
Voilà.
Qu'est-ce qui l'a changé? C'est la révolution industrielle et les progrès de l'alphabétisation et le progrès technique né de la révolution industrielle. Et le fait que, tout à coup, la vitesse, le temps, tout au moins, a été approché autrement. Au temps du sire de Gouberville, bon, j'ai quelques témoins privilégiés, comme le sire de Gouberville, comme un Pierre Bourdier, qui était laboureur, percheron, comme Louis Simon, qui était étaminier, c'est-à-dire fabricant d'étamines, qui était une sorte de tissu de cotonnade dans le Maine, comme quelques autres, eh bien, on voit bien que pour le sire de Gouberville, le temps, et pour tous les autres, le temps a une autre dimension, une autre appréhension. Le sire de Gouberville, lorsqu'il part pour la messe, arrive souvent messe dite. Bon, où il arrive chez lui, après dîner. On ne précise pas s'il est 8h du soir, 9h du soir ou autre. Il arrive à l'heure des vêpres. De la même manière, je reviens à mon notaire, mais lorsque le notaire rédige un contrat de mariage, il rédige un contrat de mariage dans la maison d'un tel et une telle, qui sont en général les parents de la future épousée, tel jour, de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, tel jour, de tel mois, mais après-midi ou le matin, le repère, c'est la demi-journée. 15h ou 14h, qu'est-ce que ça changerait? Rien. Et ça, on a beaucoup de mal à s'imaginer ça, à se transposer dans un monde où il n'y a pas l'eau courante, où le seau qu'on va chercher à la source ou à la fontaine, comme Cosette avec son seau,
et quelle eau, souvent, oui.
Est lourd, est économisé, et quelle eau, oui, à côté des fientes de vaches qui sont tout près, des bouses de vaches. Mais on a du mal à imaginer qu'il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage central, pas d'intimité. C'est une autre dimension encore. Où est l'intimité, où commence-t-elle, où termine-t-elle? Le célibataire, par exemple, très curieusement, est l'empêcheur de tourner en rond, tout simplement parce que on l'intègre très mal, parce qu'il n'apporte pas dans la répartition des tâches quotidiennes, il n'apporte pas quelqu'un qui peut apporter l'équivalent de son travail et surtout de ses besoins auprès du clan des femmes.
Et encore une chanson donc de ces temps qui sont tellement étranges à nous autres.
Yeah.
Oui, à Pâques ou à la Trinité, Jean-Louis Bocarnot, mais il y a aussi deux autres traits qui sont, malheureusement, est obligé d'aller très vite, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, et ce livre mériterait beaucoup plus long entretien. Mais il y a deux choses aussi qui font que cette société, en tout cas jusqu'au XVIe, je pense, sont radicalement, même peut-être après, radicalement différentes de la nôtre, et qu'il est très difficile de les imaginer. La première, c'est que ils ne savent pas très bien qu'ils sont français. Et la deuxième, c'est qu'ils ne bougent pas. Sauf une petite catégorie, par exemple le notaire, par exemple des migrants, etc. Et des gens inquiétants aussi.
Ils n'ont pas de notion de l'extérieur.
Voilà.
Leur univers, leur horizon s'arrête à la dimension de leur paroisse, de leur seigneurie, qui sont les seules réalités. De toute façon, nous sommes quand même dans une société qui a longtemps montrer un héritage très très fort par, enfin, venant de l'époque médiévale, de l'époque de la féodalité, et sous le système féodal, eh bien, le paysan était tenu à la terre, c'était le manant qui devait, manéo en latin, rester, demeurer, d'où la maison, la ménie, etc. Et ce manant ne pouvait pas déguerpir. S'il déguerpissait, il échappait, pour essayer d'échapper à l'empreinte, enfin à la contrainte de son seigneur, mais s'il déguerpissait, on avait le droit d'aller le récupérer, et bien souvent, pour lui passer l'envie de déguerpir, on lui coupait la jambe. Sauf si on l'avait retrouvé au pied d'une croix, dans un lieu de sauveté, ou dans une église. Mais c'est un univers très limité. Lorsqu'Anne Simon, ou la fiancée de plutôt de Louis Simon, dont j'ai oublié le nom, à la fin du XVIIIe siècle, dans le Maine, a une déconvenue sentimentale, et la prend, elle voudrait être à 80 lieues. 80 lieues, c'est en Australie, c'est aux antipodes. 80 lieues, c'est on n'est plus dans son univers, et quand on n'est plus dans son univers familier, dans l'univers où on a passé son enfance, où on va passer toute sa vie, où on doit passer toute sa vie, on n'a plus de repères, les autres ne vous situent plus, on devient un étranger, et l'étranger, par principe, fait peur. L'étranger inquiète, l'étranger perturbe, l'étranger dérange. On a peur de lui, et comme c'est un réflexe primaire du fait qu'on ait peur de lui, on cherche à se défendre, on cherche à prévenir ce qu'il va pouvoir faire de nuisible, qui peut vous être nuisible ou qui peut vous déranger.
Et l'étranger ou tel étranger, je veux dire, est-ce qu'on peut...
L'étranger commence dans la commune voisine.
Dans la commune, donc c'est pas l'étranger au sens raciste du mot.
Ben, l'étranger au sens raciste du mot, on n'en connaît pratiquement pas. Des gens de couleurs différentes.
Ça n'existe pas. Mais...
Ça n'existe pas, oui. Pratiquement.
Des gens de langage différent, ça existe, mais ils parlent tous de langages différents, de toute façon, en
Exactement.
France.
Exactement. La France a été très longtemps une mosaïque. C'est l'école de Jules Ferry, et ce sont les tranchées de 1914 qui ont permis à la langue française de s'imposer dans toutes les régions.
Oui, car les guerres qui sont très importantes, comme la guerre de Cent Ans, les gens savent à peine qu'il y a la guerre, hein.
Ce sont des mercenaires qui font la guerre. Ouais. De toute façon, on passe son temps à piller les villages, etc. Nos ancêtres sont résignés. Ils sont résignés parce que ils ont la foi du charbonnier et ils attendent quelque chose de mieux là-haut, plus tard. Donc ils sont résignés, ils n'ont pas de toute façon d'autres possibilités. Ils acceptent, ils subissent, et lorsqu'on détruit un village, ils s'enfuient dans les forêts, ils se réfugient dans les forêts. Il n'y a pas de journal télévisé, évidemment. Il y a beau avoir des crieurs publics, on ne donne que les informations qui les concernent directement. Donc, il n'y a pas moyen de s'informer. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que pourraient leur faire les histoires du roi de France et du roi d'Angleterre? À eux, paysans du Limousin ou paysans de la Franche-Comté ou de la Picardie.
Oui, mais ce que vous dites, est-ce que vous prouvez, parce que c'est très, très éloquent, votre démonstration, c'est tout de même très surprenant quand on passe son temps à dire que la France est un pays très singulier parce que c'est un pays centralisé, contrairement à tous les autres, par exemple l'Italie, contrairement à l'Allemagne qui était une poussière de petits États. On dit toujours, oui, mais la France, depuis les Capétiens, et puis la Révolution, et puis Napoléon, et puis la Troisième République, ça a toujours été centralisateur. Qu'est-ce que ça veut dire d'être centralisé si on ne sait même pas qu'il y a un roi de France?
Oui, mais il y a une fabrication qui se fait. Ce sont tous les légistes des premiers Capétiens, puis les ministres des suivants, puis l'approche que fait Louis XIV de ces problèmes-là, qui vont faire que petit à petit, on va construire la France autour d'eux, et que la France va se construire et s'imposer, et nos ancêtres vont petit à petit en prendre conscience. Il faudra attendre pratiquement les guerres de l'Empire pour qu'ils prennent conscience d'appartenir à une même nation, les révolutions et l'Empire, et plus encore l'Empire qui va lancer la conscription. Là, on sait qu'il faut aller se battre parce qu'on est français.
La Révolution française, alors. Juste avant l'Empire.
Juste avant l'Empire.
Oui. Ouais.
Mais...
Parce que quand même, ces gens, mettons les soldats de l'an 2, quand ils reviennent, ils racontent des choses à leur, au lavoir du village, aux vieux.
Les soldats ne même... vont pas au lavoir, c'est le domaine des femmes. Les soldats vont à la forge, éventuellement. C'est le domaine des hommes ou au moulin. Oui, oui. Mais le lavoir, la fontaine, sont les lieux des femmes.
Ce que je veux dire, c'est que je comprends très bien qu'il y a une énorme majorité de tortues, enfin des gens qui sont comme des huîtres sur leur rocher. Hein. Mmh. Et puis, mais j'avais l'impression qu'il y avait aussi tout un brassage qui était opéré par les migrants, par quelques étrangers, par les bandits,
oui, mais ce brassage...
des soldats revenus oui. de guerre, et par les notables.
Oui, mais on l'ignore un peu, on est un peu en marge de tout ça, et ça n'est pas dit du tout que ce brassage puisse être ressenti par les gens qui vivent dans leurs fermes ou dans les bourgs d'autrefois, qui se contentent des quatre coins de leur commune, de leur paroisse, etc. Tout est organisé autour de ça, tout est centralisé aussi à ce niveau-là.
Oui, c'est centralisé donc, mais est-ce que au-delà, il n'y a pas une deuxième strate de centralisation qui concerne par exemple le curé. Le curé, il reçoit des ordres de l'évêque.
Absolument. Le curé connaît son évêque.
Il connaît son évêque. L'évêque doit recevoir des ordres du roi ou du pape ou de je ne sais qui.
Oui, oui, mais l'évêque vient de temps en temps au village.
Voilà.
Mais
le notaire lui-même, il sait quand même des choses.
Ah,
donc
le notaire
il transmet.
A des ouvertures.
Il transmet, non ?
Oui, mais nos ancêtres n'ont pas besoin d'ouverture. Je crois que ça c'est très complexe. J'ai du mal un petit peu à m'exprimer là-dessus, mais on sent bien non seulement une absence de curiosité, mais une absence de besoin. On n'a pas besoin de ces ouvertures. Pierre Bordier, qui fait son petit boulot dans la région du Perche en étant maquignon, va à Vendôme de temps en temps, puis ça s'arrête là. Lorsque le sire de Gouberville quitte le bocage du Cotentin pour aller à Blois, c'est la grande aventure de sa vie. Il va à la cour à Blois pour essayer de récupérer une charge. Il ne montre aucune curiosité pour les paysages traversés. Alors qu'il va voir des choses qui ne sont pas de chez lui. Non, il n'y a pas de curiosité.
Mais le paysage, même les écrivains n'en parlent presque pas du paysage. C'est très tardif. Il faut attendre Rousseau.
Mais ni les paysages, ni les populations et les villages traversés. Il n'y a pas de curiosité du tout. Il n'y a pas d'observation.
Vous avez quand même, et vous avez un chapitre passionnant à ce sujet, sur les colporteurs. Vous avez les colporteurs, enfin, et les migrants, disons. Hein. Oui. Vous avez les étameurs auvergnats, par exemple.
Oui, mais j'écris tout un bouquin là-dessus. Donc,
les sueurs de Lyon.
Ce sont les personnages que je réintègre dans
les sueurs de Lyon.
Ils sont importants.
Forésiens, oui. Vous avez les peigneurs de chambre.
De chambre
les écoleurs, ça ce sont. Alors, c'est des gens qui sont instituteurs.
Qui sont instruits et qui vont à la morte saison, parce que ce sont des alpins, donc pendant le long hiver des Alpes, ils vont se placer dans les fermes en général du nord de la Provence, etc., pour aller enseigner les enfants des paysans un petit peu évolués. Et ils se promènent avec des plumes ou chapeaux, c'est encore la société de l'image, et selon qu'il y a une, deux, trois ou quatre plumes, et bien ça veut dire qu'ils savent apprendre à lire une plume, à écrire, deux plumes, à compter, trois plumes, et le latin en prime, quatre plumes.
Magnifique. Et puis il y a les colporteurs de mon pays, des Alpes en particulier. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller plus loin. Et toutes les réponses à ces questions que nous avons soulevées sans les écumer, sans les comprendre à fond, eh bien, elles sont dans ce livre que je recommande, Jean-Louis Bocarnot, Qui étaient nos ancêtres, de leur histoire à la nôtre, et l'éditeur est Jean-Claude Lattès.